Ce soir, retour à cet été-là, le plus beau et le pire, l'été du bac. Et chers auditeurs, pour une fois, l'anecdote est 100% personnelle. Juin 2011, élève appliquée, je passe mes journées à bachoter quand tombe une annonce de casting à Paris. Je m'apprête à passer des vacances entre copains à Port-Barcarès. Les finances sont maigres, alors pourquoi pas ? Problème, c'est pour une pub de stylo bille avec de fausses perles du bac enregistrées pendant de faux oraux. Le jour J, je récite mon texte et lâche un magistral, capote glaciaire au lieu de calotte glaciaire, fourrure générale, contrat signé, 1200 euros en poche. Je décroche mon bac avec mention, mais chaque année et encore aujourd'hui, on me renvoie cette vidéo de la honte. Comme quoi, les souvenirs du bac, eux, n'ont pas de date de péremption. Mon invité nous replonge ce soir avec nostalgie dans cette époque, avec son roman « Dernier jour de l'apesanteur » publié aujourd'hui chez Gallimard. Fab Caro raconte les derniers moments d'adolescence d'un lycéen maladroit et jamais vraiment dans le coup. Bonsoir Fab Caro.
Bonsoir.
Vous êtes auteur de BD et romancier. Vous êtes imposé en 2015 avec votre album Zai 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 Zai, devenu un phénomène de l'humour absurde. Depuis, vous jonglez entre albums à succès, romans tendres et décalés, puis vous revisitez les classiques comme Astérix. Et parce que le rire peut aussi rapprocher et éclairer l'inconnu, on a eu envie de vous présenter en fin d'émission l'autrice de BD, Émilie Glisson. Elle vient de publier chez Atrabile, Les Gugus en vacances, une épopée familiale autour de Ted, l'aîné, autiste de cette smala de zinzin. À 18h30, comme tous les soirs, c'est le panorama de la culture. Au programme Dérive sectaire sur scène, le dernier David Diop, un festival pour se déhancher et un classique à rattraper. Alors sortez les albums de Nirvana, la Game Boy et posez-vous près de votre radio cassette, le Mac de l'été. C'est jusqu'à 19h sur France Inter.
France Inter, le Mac de l'été. Constance Villanova.
Fab Caro, est-ce que vous vous souvenez, et j'imagine que oui, de votre année du bac ? Vous entreteniez quoi comme rapport avec ce fameux examen ?
Plutôt, ouais, un petit peu ce que je raconte dans le roman, c'est-à-dire un mélange d'exaltation et de stress, surtout quand on est de nature hyper angoissée comme moi. Donc ouais, c'est une année où on se projette, on se dit « Ah, c'est dernière année au lycée », puis après c'est la vraie vie, on s'en va.
C'était quoi le projet de vraie vie pour vous ? Quand vous aviez 17-18 ans.
C'était très flou, mais en tout cas, on part de chez ses parents, on va à la ville. Moi, c'était un petit lycée de province, et j'allais à Montpellier, c'était la grande ville, et j'allais avoir une chambre de CTU, donc c'était la liberté, je pouvais faire ce que je voulais. C'est bête, mais les trucs, ce qui était associé à la liberté, c'est je pourrais manger quand je voudrais, je pourrais manger ce que je voudrais. C'est idiot comme rêve de liberté. C'est un petit peu mesquin. Mais voilà, des petits trucs comme ça, se dire, voilà, après le bac, c'est la, voilà.
Et est-ce que vous étiez déjà nostalgique pendant cette époque-là? Parce que c'est la dernière année au lycée avec la bande de potes. Est-ce que la nostalgie vous contaminait déjà?
Je crois que oui. Ouais, je crois que j'ai toujours été, toujours eu conscience du temps qui passe et en même temps j'avais envie que voilà de partir de et en même temps je me disais ben, voilà bientôt ce sera fini, on sera plus sur ce banc, on sera plus il y avait un côté comme ça aussi.
Avant d'ouvrir les pages de votre dernier roman Fab Caro, on passe au moment test, au moment rond, carré ou triangle. J'aimerais savoir quel haussien vous êtes, Fab Caro. C'est l'interview haute saison. Racontez-moi en quelques mots vos pires vacances. J'ai lu qu'il y avait eu des vacances à Marseille qui n'avaient pas été top en famille par exemple.
Ah oui, on était dans les Calanques, on visitait les Calanques, on se baladait, et pendant une pause, ma fille, qui était petite à l'époque, elle commence à jouer sur la plage, et puis, bref, je la fais courte, elle s'est piquée avec une seringue sur la plage. Donc là, d'un coup, tout s'assombrit, moi, hyper angoissé, toujours, ça a été un cauchemar. Non, ça fait rire maintenant. Mais ça a été un vrai cauchemar. Bon, après, tout s'est bien fini, donc je peux le raconter.
Elle va mieux maintenant, elle
oui,
s'en est sortie.
Non, mais il s'est rien passé du tout, mais elle est arrivée avec le doigt, avec un petit peu de sang, en disant, je me suis piqué avec une seringue. Alors moi, j'imaginais déjà tout, le VIH, enfin tout ce qui va avec. Quoi.
Ce qui va avec les rumeurs urbaines aussi, ça ressemble à une légende urbaine. Ce que vous détestez en été, ce que vous détestez faire, ou ce que vous détestez en été?
J'aime pas trop la plage. J'aime pas trop...
En même temps, si votre fils se pique avec des seringues à la plage...
Déjà, ça aide pas, ouais. Mm. Non, mais... j'aime pas trop le côté inactif. Alors déjà, je suis pas très baignade. Moi, j'aime pas trop me baigner. J'aime l'eau, mais... Le côté contemplatif de l'eau, j'aime bien regarder l'eau. Mais après, rester, je comprends pas les gens qui arrivent à rester un quart d'heure, même des fois deux heures sur une serviette sans bouger. Moi, j'ai un côté gamin hyperactif, je suis incapable de rester 10 minutes allongé, je m'ennuie. Donc ouais, j'aime pas trop le côté plage, je m'ennuie un petit peu. Ouais.
Vos meilleures vacances entre copains ?
Oh là là, il y en a eu tellement. À Barcelone, peut-être. J'ai une petite maison de famille. Enfin, j'avais une petite bicoque de famille là-bas de mes grands-parents et c'était le rituel d'y aller avec mes deux, trois potes, mes meilleurs potes. Et puis, c'était un petit peu la fiesta dans Barcelone. Donc, ça, c'était chouette. Ouais.
Et le pire job de votre été? Le job étudiant, le pire que vous ayez?
Pire job de l'été? Oh, j'ai que des bons souvenirs, mais c'est souvent ça, on a les souvenirs après coup, sur le moment. J'ai fait de la maçonnerie, et c'est assez physique en fait. Donc ça, c'était peut-être un petit peu dur. Alors ce qui était dur, c'est que je suis sujet au vertige, c'est maladif.
Ouais.
Et quand je devais monter sur l'échafaudage, je m'agrippais à l'échafaudage, autant dire que je n'étais pas très efficace.
Ouais, donc ça, c'est plutôt un poids pour vos collègues.
Ouais,
d'accord.
Ouais.
On va plonger avec vous dans le dernier jour de l'apesanteur, mais avant ça, on avait envie de vous plonger, vous, dans l'été de vos 20 ans, le premier été de liberté. On est en 1993, la France roule en Citroën Xantia. Pierre Bérégovoy vient de se donner la mort et tout le monde répète « OK » de Christian Clavier. Mais il se passe plein d'autres choses, écoutez bien.
À 42 ans, le 45 Tours, victime de la concurrence des cassettes, est décédé. Elle est bonne, mais il faut suivre.
Et c'est fini ! L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions.
De plus en plus de présomptions donc contre l'OM après les 7 heures de perquisition au siège du club avant-hier.
Un nouveau jeu Zelda vient d'arriver, mais seulement pour Game Boy. Link's Awakening. Link's Awakening. Ça fait des semaines que je joue sans arrêt.
Mon cher professeur Sattler, bienvenue à Jurassic Park.
On a entendu donc la fin du 45 Tours, Snoop Dogg, l'OM qui gagne pour la seule et unique fois la Ligue des Champions, une pub pour le jeu vidéo Zelda, Jurassic Park. On ne l'a pas entendu, mais c'est aussi l'année de ma naissance, très important de le rappeler. Vous vous souvenez, Fab Caro, de l'été de vos 20 ans?
20 ans, c'est 93. Ouais. Bah, ça a été un été assez vadrouille. Enfin, vadrouille, c'était pas non plus, j'étais pas un globe-trotteur, mais ça a été un des premiers étés où on partait en voiture avec mes potes un petit peu partout. Et donc, 93, on avait fait les Eurocaines à Belfort, dans une tente.
Vous aviez vu qui?
Un tas de trucs. Jeff Buckley, les Cure. Mais je dis ça, je fais le beau, mais les Cure, on était au fond, je l'ai vu sur écran géant en fait. Je l'aurais mieux vu à la télé. Mais un tas de trucs, qu'est-ce que j'ai? Renault.
Et donc vous étiez en tente aux Eurocaines, quoi.
Ouais. Alors sous-équipé, évidemment. On était trois, on avait une tente deux places. On mangeait des boîtes de maïs. Mais c'était chouette. Et puis, je m'en souviens de ça, 93, les Eurocaines. Et après, on a fait une virée sur la Côte d'Azur. On a poussé jusqu'en Italie, toujours très sous-équipé. C'était rigolo.
Avant de parler de votre livre, on reste en 1993. Rappelez-vous, cette année-là, on dansait le Mia également avec Ayam.
Je fada, je crée des gueux, je vous prenne tous ici un par un.
Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle à notre froid quand cul roulait autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins, des buloni. Dès qu'il passait, caméo, Midnight Star. SOS Bond, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps. Via planète Marseille, je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait. Le samedi d'après, on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au palais des Renault 12 sur le parking. À l'intérieur, pour elles, c'était moins rose.
Oh cousine, tu danses ou je t'explose?
Voilà comment tout s'aggravait. En un quart d'heure, le frère aura piqué.
Oh, comment tu parles à ma soeur?
Viens avec moi, on va se filer. tête à tête, je vais te fumer derrière les cyprès. Et tout s'arranger ou se régler à la danse. L'un disait fils, y'a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent, hop, dont je brille. Je te bousille, tu te rhabilles et moi je danse le Mia. Comme les voitures, c'était le défi K8C73. JM 120, mon petit, du grand voyou à la plus grosse, mon Vietnam sur le volant. Avec la moquette, par un soleil pionnier sur le pare-brise arrière. Dédé et Valérie écrit en gros
sur mon père.
La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch. On lui collait la bande rouge à la Starsky Hutch. J'avais la nuque longue, Eric aussi, Malek, Coco, la Toupa, la Marley, Pascal et Terrasta. Des afros sur François et Joe. Déjà à la danse, à côté des personnes, ne touchait une fille. On dansait le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia.
Sur Radio Chacal en duplex live avec le Star Flash Laserlight Action Club, c'est tout de suite 3, 2, 1, DJ.
Ah, merci à toutes et à toutes d'être avec nous ce soir encore. New Star Flash Laserlight Action Club, nous sommes ensemble ce soir pour une soirée de bonheur musical avec un grand concours de danse. De nombreux super cadeaux pour les heureux gagnants. Il y aura des shots Malboro, des autocollants pionniers, des cassons JB, des peluches. À la technique, c'est Michel, de Light Jockey, c'est Momo. On monte sur les tables, on lève les bras bien haut, allez, c'est parti.
Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia, pas de pacotille, chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Des gestes lents, ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes qu'ils avaient élaborées dans leur quartier. C'était vraiment trop beau, un mec assuré, tout le monde criait. La piste s'enflammait et tous les yeux convergeaient. Les différences effacées et des rires éclatés. Beaucoup disaient que nos soirées étaient sauvages et qu'il fallait entrer avec une batte ou une hache. Foutaise, c'était les ragots des jaloux. Et quoi qu'on en dise, nous on s'abusait beaucoup. Aujourd'hui encore, on peut entendre des filles dire
aïe aïe,
Je danse le Mia et son clip réalisé par Michel Gondry. Si vous voulez danser pour de vrai le Mia, rendez-vous demain au festival La Nuit des Étoiles avec IAM.
France Inter. Le mag de l'été.
Bonjour, ils sont 21 918 à venir tout juste de pousser un premier ouf de soulagement. Il s'agit bien sûr des candidats de l'Académie d'Aix-Marseille qui planchaient ce matin sur l'épreuve de philo. Sourire ou déjà déception, premières impressions recueillies ce matin par l'une de nos équipes.
J'ai choisi le sujet numéro 1, la dissertation par le langage. Peut-on agir sur la réalité ?
Pendant combien de temps est-ce que vous avez planché ?
En vrai dire... 2 heures.
Pour moi, c'était le plus abordable, quoi, parce que le bon, l'étude de texte, c'était assez dur, et le deuxième sujet, bon, j'avais fait l'impasse, quoi. Alors, je fais le premier.
Le marronnier des résultats du bac dans le JT en 1990, Fab Caro, votre roman Les derniers jours de l'apesanteur nous ramène en terminale, l'année du bac. On y suit un ado maladroit, rêveur, incapable de dire non, qui traîne un peu sa nonchalance entre les copains, les premiers émois amoureux et les drames de lycée. Votre roman, il regorge de références sur les années 90, hein, de Michel Sardou dans Télé 7 jours à Sting. Pourquoi vous avez choisi cette période précise ?
Bah, il se trouve que c'est l'année scolaire où j'ai passé ma terminale à moi, 89-90. Alors, c'est jamais explicité, je crois, l'année scolaire, mais je crois qu'avec les références historiques et tout ça, on arrive à la mort de Mandela, on se doute. J'avais envie de... l'écriture, pour moi, c'est un truc assez égoïste. On a envie de se faire plaisir. J'avais envie de passer 6 mois avec l'ado que j'étais. Alors, même s'il y a beaucoup de fiction, beaucoup de trucs inventés, j'avais envie de me replonger dans cette époque-là, dans un petit lycée de province avec tous ces trucs, toutes ces références. M'amuser pendant 6 mois.
Votre héros, il n'est jamais là au bon moment, il ne sait pas dire non, il se retrouve dans des situations lunaires malgré lui. Vous explorez ce profil d'anti-héros depuis vos premières BD, hein, même dans Le Steak Haché de Damoclès, votre premier album. Pourquoi les anti-héros, Caro ?
Déjà, d'un point de vue purement narratif, c'est plus intéressant de raconter la vie d'anti-héros et des gens qui ratent que des gens qui réussissent.
Ils sont plus sympas.
Alors moi, c'est mon avis personnel. Peut-être qu'il y a des winners sympas, je sais pas. Je connais pas beaucoup de winners. Mais Ouais, moi je les trouve plus attachants. En tout cas, je trouve que l'échec a quelque chose d'attachant, alors d'un point de vue narratif et d'un point de vue humain aussi. Et là toujours pareil, genre quand on passe quelques mois à écrire avec un personnage, on a envie de l'aimer, ce personnage. Moi, j'ai pas forcément envie de passer 6 mois avec un gars que j'aime pas trop. Donc il faut que je sois un petit peu attachant.
C'est un ado, hein, il est à l'aube de l'âge adulte. Qu'est-ce qu'il y a de vous dans ce héros? Vous étiez comment, vous, ado? Est-ce que vous ressemblez à ce héros-là?
J'étais moins pire, je crois. Ben, mes personnages, c'est toujours moi en pire. Enfin, j'espère. Je prends un petit peu mes défauts, mes névroses, et puis je pousse un petit peu le curseur pour que ce soit un petit peu drôle et un petit peu... Mais il y a pas mal de moi. Et là, dans celui-là, bon, je crois que j'étais plus... J'étais moins névrosé, plus détendu. J'étais plus léger que lui au lycée. J'étais plus léger. Lui est assez... il est hyper névrosé, hyper... Il se pose 1000 questions à la minute. Je crois que moi, pour le coup, au lycée, j'étais un petit peu épargné par ça.
Il se pose 1000 questions, mais il en a un peu rien à faire de l'année d'après, hein, en termes d'ambition.
Ouais, alors lui, pour le coup, il me ressemble un petit peu. Ouais. Moi, j'ai suivi les copains, en fait. Au dernier moment, il fallait remplir la fiche de souhait, je sais plus ce que c'était. Et j'ai demandé, vous faites quoi, vous? Ah, mais nous, on fait fac de sciences. Ah, ben, d'accord.
Et alors, là, pour il suit le mouvement, ouais.
Voilà, j'ai suivi. J'ai fini en fac de sciences, alors que ça ne m'intéressait pas du tout.
Alors, dans ce livre, vous décrivez avec beaucoup d'humour, hein, la recherche d'identité et ce besoin permanent d'appartenir à un groupe. Ce matin-là, votre héros, il arrive au lycée, il apprend qu'un élève, Nicolas Morin, est mort dans un accident de moto, et j'aimerais que vous nous lisiez un extrait, justement cet extrait. Vous sortez votre feuille.
Je sors mes lunettes de vieux. Je vous préviens, je lis pas très bien.
Oh, je suis sûre que ça va être génial.
J'y vais.
Allez-y.
Ils étaient 4 dans la voiture, seul Nicolas Morin était décédé, les 3 autres grièvement blessés. Je ne l'avais jamais vraiment fréquenté, mais dans notre petit lycée de province, tout le monde se connaissait. Et comme tout le monde, j'ai aussitôt affiché un masque de douleur insurmontable. Ce matin-là, chacun avait une anecdote à raconter. Et dire que je devais aller en boîte avec lui. J'étais censé être dans leur voiture. Même ceux qui n'avaient aucun lien direct trouvaient un angle. Ils revenaient du Machico. J'y étais le week-end dernier. C'était à celui qui paraîtrait le plus proche du drame. Et le plus incroyable, c'est le nombre de gens qui, le jour de sa mort, avaient parlé avec lui au téléphone. En additionnant toutes ces conversations, on dépassait les 24 heures. Statistiquement troublant. Morale, méfiez-vous des journées où vous téléphonez beaucoup, elles sont souvent les dernières.
Merci Fab Caro, un extrait de Dernier jour de la pesanteur, votre roman qui sort aujourd'hui chez Gallimard. Vous racontiez petit que vous adoriez les récits de bandes d'amis. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ces dynamiques?
Ah, j'aimais bien les clichés, il y avait beaucoup de trucs comme ça avec... Des archétypes avec le sportif, le petit enveloppé, l'intello, la fille. Et je crois que comme j'étais assez solitaire, je m'inventais des bandes d'amis. C'est le truc triste.
Non, pas du tout. C'est un peu glauque. Mais...
Non, je crois que je me recrée des petites bandes imaginaires comme ça, comme j'étais toujours un petit peu seul dans mes trucs,
parce
dans mes lectures.
Parce que c'est aussi l'histoire d'une bande. Hein. On voit qu'il se raconte auprès de ses amis. Enfin, disséquez aussi cette dynamique-là dans le roman.
Bon, après au lycée, j'étais un petit peu moins solitaire. J'avais des amis.
J'espère. Cette période, c'est aussi la découverte de la sexualité. Il y a des scènes très drôles, comme quand Justin, un des personnages, calcule la position exacte du point G grâce à de savants calculs. Ça m'a vraiment fait penser au beau gosse de Riyad Satouf. Il y a un côté très très amusant sur cette découverte-là. Vous vous moquez ou vous avez un regard tendre sur les ados?
Ah non, plutôt tendre. Non, bah c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est pas si loin. Le mec qui se croit jeune. Non, ça reste assez loin. Mais j'ai un regard hyper tendre quand je vois des ados qui font n'importe quoi. On se voit en fait.
Ouais.
Moi je trouve ça joli.
On va continuer à parler de votre livre, de votre écriture et de vos dessins. Mais d'abord un petit panorama de la culture. Ça sera après Burna Boy, un autre nostalgique hein, qui revisite dans Update le tube Soul to Soul sorti en 1989. To life, back to reality, back to life, back to reality, back to life, back to reality, back to the here and now.
Then no fit touch my energy. Abba, I've only time. If I no get money, na disability. Baba, so forget to my shy blocking. My love's out, ready for one time.
Retour à la réalité, c'était la mise à jour de Burna Boy, extrait de son dernier album, No Sign of Weakness.
Le mag de l'été. Constance Villanova sur France Inter.
Tous les jours à 18h33, le mag de l'été passe en mode vigiculturel. C'est le panorama.
Panneau.
Oui.
Obé. Non, c'est panneau.
C'était de 7h à 8h, dans un parc, entre des grandes tours d'immeubles, et sur un petit groupe de 15 personnes, il y avait moitié d'origine asiatique, moitié d'origine européenne. La chef de groupe arrive avec un petit haut-parleur, il y a une musique qui est diffusée, et du coup on peut entendre la voix de Li Yongzhi, le grand gourou, le leader suprême un peu, qui parle en chinois et qui dit position numéro 1, vous faites ça, ta 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 ta. Mais c'est tout ce que c'est au final, les séances de Falun Gong. Sauf une fois du coup, où j'ai vu Daniel arriver avec plein de prospectus pour le Falun Gong, et pour Shen Yun, ça fait un peu vraiment prosélytisme, le fait de distribuer des flyers comme ça.
Vous n'avez pas pu passer à côté de ce matraquage publicitaire. Une jeune femme chinoise exécute un pas de danse en tenue traditionnelle sur fond bleu. Dans les transports, à la télévision, le spectacle Shen Yun est partout depuis une dizaine d'années. Mais derrière les costumes flamboyants aux couleurs de la Chine millénaire se cache une multinationale en proie aux dérives sectaires. C'est ce que rappelle l'UNATFI, principale association de lutte contre les sectes, dans un communiqué publié hier. Ce spectacle international serait la vitrine du Falun Gong, mouvement politique politico-religieux accusé de xénophobie et de rejet de la science. Au Canada, plusieurs représentations ont été annulées après des accusations de travail forcé et de pression psychologique sur les danseurs. En France, malgré les polémiques, la tournée est maintenue et l'affichage validé par l'autorité de régulation professionnelle de la publicité.
Il y en a qui disent que voilà, il y a à 50 ans, ce qui est mon âge, enfin je me rajeunis de 2 ans, qui disent, voilà, le but de leur vie, c'est... Enfin, ils ont réussi leur vie quand ils ont une Rolex. Mm-hmm. Moi, c'est d'avoir un bureau. J'ai un bureau depuis 2-3 ans et je suis très heureux de pouvoir avoir ce lieu pour écrire.
David Diop revient aujourd'hui en librairie, c'est l'objet culturel du jour. L'écrivain s'impose en 2018 avec Frère d'âme, lauréat du prix Goncourt des lycéens et surtout du renommé International Booker Prize en 2021. Dans son petit dernier, Où s'adosse le ciel, publié chez Julliard, David Diop nous emmène à la fin du 19e siècle. Bilal Sek, de retour de son pèlerinage à la Mecque, survit à une épidémie de choléra et devient le dépositaire d'un mythe ancestral. L'auteur tisse ici une grande fresque mythologique entre odyssée spirituelle et conte philosophique. Les amis, faites ajuster vos lunettes, la rentrée littéraire commence.
Congolis, baby, aimerait sa pite, billet. Moi, si sous Cali, je me lève, fuite et j'appelle. Je suis pété sous Cali, pollen, joule, maille à la baie. Non, plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vu la veille. Congolis, baby.
C'est comme notre réalisateur Étienne. Vous ne pouvez pas passer une journée sans secouer votre arrière-train sur du Théodorat, foncer dans les Ardennes à Charleville-Mézières pour le festival Cabaret Vert. Aux côtés de la Boss Lady, vous retrouverez le Duc Booba, le trio britannique Electro The XX ou la coqueluche de France Inter, Zao de Sagazan. Cabaret Vert, ça commence ce soir et c'est jusqu'à dimanche.
À vos ordres, Majesté. Que se passe-t-il ?
Une charmante petite bergère, à qui je porte un tendre intérêt, a été enlevée par un misérable petit ramoneur de rien du tout. Je veux, j'ordonne, j'exige que vous les retrouviez dans les plus brefs délais.
Il m'a toujours effrayé autant que fait rêver, c'est le rattrapage du jour. Chef-d'œuvre de Paul Grimaud et de Jacques Prévert, Le Roi et l'Oiseau, reste l'un des joyaux du cinéma d'animation français sorti en 1980. Il s'inspire librement du conte La Bergère et le Ramoneur d'Andersen. Satire politique et poésie s'y mêlent avec une modernité incroyable. Restauré en 2003, le film reste une référence mondiale admirée par Miyazaki et l'équipe de Pixar. À voir en famille ou à revoir sur Arte, mais vite, 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 il ne reste que 2 jours.
Qu'est-ce qu'un gag réussi ?
Vous prenez un bébé, un nouveau-né, vous êtes une femme, la maman, et en face, il y a le papa qui tend les bras. Et vous jetez le bébé dans les bras du papa, et au dernier moment, vous le retenez. Ça fait rire le bébé. Donc, ça veut dire que ça peut être assimilé à un gag, c'est-à-dire à quelque chose d'inattendu. Un truc qu'on se voit en train de faire, que le môme, le bébé, s'attend à vivre, et finalement, bah, il ne le vit pas, et ça s'arrête. Donc, ça peut être assimilé, même dans le cas du bébé, à une sorte de petite angoisse.
L'inattendu et le détournement de l'angoisse.
Oui, c'est ça. Ça peut être ça.
Gottlieb dans l'émission Le Grand Entretien de François Bunel sur France Inter, un des géants de la BD française, un maître de la transgression tendre qui a marqué toute une génération, dont la vôtre, Fab Caro. Ça a été une influence majeure pour vous. Comment vous l'avez découvert et qu'est-ce que vous avez appris de l'humour avec lui ?
J'ai découvert ça, c'était l'école Fluide Glaciale à l'époque. Moi, je sortais de l'école un petit peu franco-belge, que j'avais lu quand j'étais enfant, les Astérix, Tintin, Lucky Luke, tout ça. Et d'un coup, je vois débarquer ce truc-là, c'était hyper transgressif, limite porno pour nous à l'époque.
On se cachait dans les toilettes pour les lire.
Mais j'osais pas le dire, mais oui, voilà.
Voilà.
Ça allait très très loin et... Ouais, mais même du point de vue graphique, ça a explosé les cadres, ça a explosé les schémas. Donc ouais, ça a été, et au niveau de l'humour aussi, c'était très expérimental. Je découvrais la BD méta, c'est-à-dire il parlait de lui-même, enfin oui, il se mettait aussi en scène, enfin ouais, il m'a apporté un tas de choses, un tas de découvertes, ouais.
Et vous dites que c'est un des plus grands ratés parce que vous avez loupé à chaque fois vos rendez-vous avec lui.
Ouais, c'était horrible. On devait se voir, donc j'ai repris Guéluron, donc on avait rendez-vous, on devait se voir en janvier. Et moi, j'étais tout excité de voir Gottlieb en janvier, et il est mort en décembre. Voilà, c'est pas une anecdote un petit peu triste. Mais...
dans vos livres et dans vos BD, l'absurde est omniprésent. Par exemple, dans Les Derniers Jours de l'Apesanteur, il y a un gimmick qui revient autour d'une poitrine. Vous l'avez dit, ce que j'aime dans l'absurde, c'est qu'il n'y a pas de limite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Ouais, en fait, l'absurde, par définition, on peut faire ce qu'on veut. On peut aller où on veut. Quand on fait du politique, il y a des codes. Quand on fait du dessin politique, du dessin de presse, il y a des codes. Quand on fait de l'humour noir, il y a des codes aussi. L'absurde, l'absurde par définition n'a pas de sens. Enfin, n'a pas de sens. On peut y trouver un sens. Ça peut être un outil aussi pour donner du sens. Mais on peut faire ce qu'on veut. Donc c'est ce que j'aime bien. On n'est pas limité. On peut aller où on veut et on peut être transgressif à partir du moment où. Comme c'est un petit pas de côté, que c'est pas frontal, ben on peut dire ce qu'on veut par l'absurde.
Vous êtes fait connaître par vos albums de BD, mais vos romans, ils s'étirent sur 200 pages. Vos BD, souvent, c'est qu'une planche. Vous cantonniez avec une planche même à vos débuts. Comment on garde le rythme comique sur la durée, sur 200 pages ? Comment vous faites ?
C'est moins évident, mais c'est pour ça que mes romans sont plus, c'est plus nuancé. C'est pas que
oui, il y a beaucoup de mélancolie.
C'est pas
aussi.
Que de la comédie. Je pourrais pas faire de l'humour sur 200 pages. Et au final, ça lasserait, je crois. Donc, il y a un petit peu tous les sentiments, mais c'est plus sentimental, plus mélancolique. Mais je tiens à ce que ça reste de la comédie malgré tout. J'essaie de me, je, je vraiment pas sortir de ça, je veux que ce soit de la comédie.
On va parler des coulisses, vous avez une œuvre prolifique, j'ai compté une vingtaine d'albums solo et 7 romans, est-ce que vous avez une vie?
Mais non, 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 c'est déprimant, c'est comme ça.
Vous faites que bosser. Quel rapport vous entretenez avec le boulot en fait?
Névrotique, staccanoviste, je fais que ça, je fais que ça, même quand je suis censé m'arrêter, je pense boulot. Mais là j'ai l'impression, je touche du bois, j'espère que je le sens bien, j'ai l'impression que je fatigue. Que je commence à lever le pied, je suis content de ça. Enfin, je dis ça, je suis même pas sûr. Mais j'aimerais bien lever le pied. J'y arrive pas parce que il arrive un moment où c'est maladif de travailler comme ça.
Vous êtes pas anxieux dans le boulot?
C'est ça, c'est ça. Je suis bien dans le boulot. Je suis bien dans la création. Du coup, j'y reste. J'essaie de pas trop en sortir. Mais ouais, votre question, du coup, la vie, elle est où? Vous me déprimez, là.
Désolé. Désolé. Et au niveau coulisses, toujours, j'ai lu que vous travaillez souvent vautré sur un canapé, sur la table de la cuisine. Vous avez investi dans un bureau il n'y a pas très longtemps. Pourquoi vous aimez travailler au milieu du monde?
Je crois qu'il y a un côté de désacraliser l'approche, la création, en fait. Que ce soit pas un truc, une espèce de rituel. Allez, je vais travailler, je me mets au bureau, et puis quelque chose va sortir, et ça va être un chef-d'œuvre. J'aime bien encore une fois, c'est de l'ordre, c'est du pas de côté. Je prendre le truc un petit peu par surprise. Je m'affale sur le canapé, je regarde des trucs. J'aime bien que ça vienne un petit peu être surpris par la création, et pas établir un espèce de rituel.
Quelque chose de comme... très solennel.
Ouais, voilà, qui pourrait tétaniser. Souvent, on se dit, allez, maintenant on s'y met. Je trouve que ça peut tétaniser. J'aime bien le côté, y aller cool. Alors, le super conseil. Mais voilà.
Vous lancer, allez-y cool.
Ouais, le côté un petit peu détaché, un petit peu désinvolte. Voilà, l'aborder de manière un petit peu désinvolte. J'aime bien cette idée.
Vous dites aussi que vous avez du mal à quitter l'enfance. Est-ce que vous arrivez à avoir un regard sur l'époque, sur la jeunesse de l'époque aujourd'hui? Comment vous faites pour garder un pied dans l'époque aujourd'hui? Parce que vous adressez aussi à un public jeune, je pense à Astérix par exemple. Comment vous faites?
Déjà j'ai des filles, enfin qui commencent à être un petit peu grandes aussi, mais enfin moi j'aime bien. C'est pas pour faire le démago, mais je crois que j'aime bien la jeunesse d'aujourd'hui. Ils sont vachement plus impliqués, vachement plus concernés que ce qu'on était nous, notamment au niveau écologie. Nous, on était nuls, enfin, on a semé des graines atroces. Enfin, c'est pas nous, c'est nos parents d'ailleurs. C'est les baby-boomers, c'est même pas nous. Mais on n'a pas été terribles non plus. Et je vois que la jeunesse d'aujourd'hui, non, je trouve qu'ils assurent à pas mal de niveaux.
Et vous vous en inspirez pour créer, vous êtes inspiré de vos filles, et même si votre livre se passe dans les années 90, est-ce que vous vous êtes inspiré de votre fille pour écrire cette adolescence-là?
Non, je me suis inspiré de moi et de mes potes. Et justement, je craignais que ça parle qu'à des quinquas comme moi. Et alors, ma fille et une copine à elle ont lu le roman, elles m'ont dit, on s'est reconnus. Et là, j'étais soulagé. Je me suis
dit, parce que vous aviez peur que ça se cantonne qu'à un public, quoi.
Ouais, je me suis dit, ça va être un truc de niche, ça va toucher les quinquas, et puis voilà. Mais en fait, j'avais fait un pari, je m'étais dit que l'année de terminale, c'est un truc qui peut traverser les époques.
Oui, qui est universel.
Ouais.
On l'a entendu, l'archive de 90 sur les résultats du bac, on aurait pu l'entendre là.
Ouais, moi, un de mes films cultes, c'est le Péril jeune de Clapiche. Oui. Et il passe le bac en 75. Ça pourrait ne pas me toucher, moi j'avais 2 ans. Et pourtant, c'est exactement les mêmes préoccupations. Et donc, je me suis dit, en fait, l'année de terminale, c'est une année très très particulière qui traverse les époques comme ça. Qu'on passe le bac en 75, 90 ou 2025, on a les mêmes... Ouais, on vibre de la même façon, je crois.
On va poursuivre cette discussion sur l'humour, l'écriture et le dessin avec l'équipe du Mac de l'été. On voulait vous présenter Émilie Glisson. Elle vient de publier, enfin elle a publié au printemps dernier d'ailleurs, Les Gugus en vacances, une BD sur une famille déjantée qui passe un séjour plutôt bancal. On reprend après une rappeuse balèze comme Bouddha, c'est Lalaïs sur France Inter.
Cache d'eau, beaucoup ça, et son vie la nuit, 7 sur 7, avec ma puta et mes chauves-souris. Balèze comme Bouddha, toute la nuit je prie. Ferme les yeux, elle veut je mets les doigts, faire un miami. Cache d'eau, beaucoup ça, et son vie la nuit, 7 sur 7, avec ma puta et mes chauves-souris. Balèze comme Bouddha, toute la nuit je prie. Ferme les yeux, elle veut je mets les doigts, faire un miami. Tu veux tourner, tourner, tourner tout le temps. Tu veux tourner, tourner, tourner sous le vent. MJ, fais-moi la con, refais doucement. Et puis je fous le camp. J'suis Pentago mais c'est de la triche. J'ai pas le temps, moi je vais être triche. J'aime pas les questions, c'est bon t'as raison. J'ai pas Bumper qui sur la corniche. J'étais dans le bang, j'écoutais du Chopin. Il veut me test, il veut que j'en chope un. Faut conquérir l'univers. Sous la Montclair en hiver. cache top beaucoup ça. Et son vit la nuit 7 sur 7 avec ma puta et mes chauves-souris. Palace Kombouda, toute la nuit je prie. Ferme les yeux, et veux, je mets les doigts. Père à Miami, cache top beaucoup ça. Et son vit la nuit 7 sur 7 avec ma puta et mes chauves-souris. Palace Kombouda, toute la nuit je prie. Ferme les yeux, et veux, je mets les doigts. Père à Miami.
Une moto en fond et des airs de Brésil, c'est Biaga de Lalaïs.
Le mag de l'été sur France Inter.
Pour ceux qui nous rejoignent à la table du MAC, je suis toujours avec vous, Fab Caro. Vous venez nous présenter votre tout nouveau roman, Dernier jour de l'apesanteur, qui paraît aujourd'hui chez Gallimard. Et on a été rejoint par l'autrice et dessinatrice Émilie Glisson. J'ai dit Glisson au début, c'est Glisson. Bonsoir Émilie. Diplômée des arts déco de Strasbourg, vous avez été révélée en 2019 avec Ted Drôle de Coco, une bande dessinée sensible et drôle sur l'autisme récompensée au festival d'Angoulême. 7 ans plus tard, vous faites revenir votre personnage avec la BD Les Gugus en vacances, une comédie familiale visuellement éclatante où ratage et tendresse fusionnent dans un univers que vous appelez le Tedverse. Donc vous nous embarquez avec la famille Gugus. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, cette famille, pour les auditeurs?
Ouais, je pense qu'elle est un peu explosive, mais elle ressemble à toutes les familles du monde. Il y a le père qui est fan de culture, la mère qui a une charge mentale au plafond et 3 enfants. Donc Ted qui est effectivement autiste TSA et la grande sœur et le tout petit frère Balou, qui veut être le premier en classe, le premier dans tout.
Et je l'ai dit, hein, y a eu Tête Drôle de Coco, d'autres travaux après, mais pourquoi vous avez eu envie de faire revivre ce personnage 7 ans après? Et pourquoi dans le cadre familial?
Oui, je pense que j'avais encore beaucoup de choses à dire et surtout je voulais prendre une autre focale que Ted. Je lui avais consacré 120 pages et la question qu'on me posait souvent en dédicace c'était « Mais toi en tant que sœur, comment t'as vécu la chose ?» Et c'est vrai que d'essayer avec humour dans le cadre de vacances de me parler de la place des frères et des sœurs dans une Adelphie avec un enfant qui prend toute la place, sans que ce soit de sa faute, donc une personne autiste, ça a été super intéressant. Surtout du point de vue de l'impact émotionnel que ça peut avoir, de l'impact social. Et donc j'ai énormément appris sur moi en la faisant.
Oui, dans vos remerciements, vous écrivez que ce livre est dédié aux frères et sœurs de personnes autistes. Je cite « Sous les projecteurs d'une vie qui n'est pas la leur ». Il y a de l'autofiction dans ce volume-là.
Ça en déborde. oui, tout est vécu, tout est vrai. Mais mon style de dessin et le propos fait que ça a l'air d'être un cartoon, quoi.
Il y a des anecdotes familiales qui sont vraies dans ce livre.
Alors c'est très très rigolo le lien en famille, parce qu'ils font pas du tout gaffe à l'histoire, ils vont juste se rappeler leur point de vue. Et donc j'ai tout enregistré, je l'aurais pas dit, mais je trouvais ça super intéressant de le lire ensemble. Ouais.
Ils ont bien réagi ?
Un vrai album photo. Ils sont fiers de moi.
En 2019, c'était avant, Tête Drôle de Coco, pardon, vous vous mettiez dans la peau d'un personnage donc sur le spectre autistique. Comment on traduit ce trouble en image ? Que ce soit dans le corps ou dans la tête d'ailleurs. Comment vous avez réussi pour nos auditeurs à traduire ça?
Et c'est en ça que la BD était un médium incroyable, parce que les métaphores visuelles pour essayer de parler des interactions sociales impossibles, de ne pas comprendre l'émotion qui est en face de toi, de cette espèce de réglage millimétré, papier à musique, de tout ce qui doit être, il y a vraiment dans le dessin une force énorme. Et moi, ce que j'aime, c'est un peu dessiner, pas la réalité, mais ce que je ressens, ce que je vois, et à travers l'émotion, je pense qu'on peut faire passer beaucoup plus de choses.
Et Ted, ce personnage-là, il y a de l'empathie pour lui, mais pas que. C'était important pour vous de pas en faire quelqu'un pour qui on a uniquement de l'empathie. Parfois, il énerve.
Il énerve, et pour être tout à fait honnête, moi, j'avais aucune empathie pour le personnage au début en faisant la BD. C'était pour mes parents, pour les voir rire au lieu de pleurer sur des choses qu'on vivait au quotidien. Et c'est arrivé de lui-même, et c'est là que j'ai aussi réalisé la force de la fiction. C'est en me mettant à la place de Ted et non plus de mon frère que j'ai enfin compris avec qui je vivais. Et ça a été une sacrée leçon.
Vous vous êtes documenté ou vous êtes appuyé vraiment sur ce que vous avez vécu, vous?
Je voulais pas documenter. Je crois que je suis allergique à tout ce qui est didactique et les chiffres et les pourcentages, tout ça. Et donc il y avait un peu ce côté où non, je voulais plus un témoignage qu'une BD sur l'autisme.
Les Gugus en vacances, c'est un voyage familial. Pourquoi ce thème des vacances?
Alors, à la base, c'était pour passer un bon moment chez moi toute seule devant mon bureau. L'introspection est arrivée super vite, mais on avait beaucoup d'anecdotes qu'on racontait en famille. Et je me dis, tiens, c'est drôle parce que les gens ne me croient pas quand je les raconte, dans un sens.
Il y a une anecdote qui est vraie, que vous pouvez nous raconter.
Alors, le pitch, hein, c'est vraiment une famille qui se déplace à l'autre bout de la terre, à savoir le Mexique, que j'ai remplacé par la Yolcam ici, pour le mariage d'une cousine. Sauf que ça a été une semaine où, pour moi, le mauvais œil était là, parce qu'il y a eu chaque jour des gens à l'hôpital.
C'est vrai cette affaire.
Ah oui, complètement vrai. C'était fou. Enfin, donc, sans dire trop, c'est vrai qu'il y a eu une remontée des eaux sales dans là où devait y avoir la réception. Il y a eu une brûlure au deuxième degré avec un pyjama collé à une cuisse. Et quelqu'un qui est devenu aveugle, quoi. Enfin,
non, c'est vrai.
Oui, c'est vrai. Enfin, elle va mieux depuis, mais, mais le jour de son mariage, c'était pas le plus fun. Ouais, ça a un peu raté la lune de miel.
Fab Caro, la famille dans vos livres, c'est aussi un terrain de jeu récurrent. Pourquoi cette dynamique, elle vous intéresse ?
Parce que moi j'aime bien le lien humain de manière générale, c'est mon terreau, comment on fait pour vivre ensemble, et là pour le coup la famille on choisit pas. Donc ce truc imposé là, ces liens imposés, je trouve ça fascinant, ça peut être... Enfin, c'est hyper fort dans tous les sens du terme. Ça peut être explosif, comme tu dis.
Puis il y a des dérapages, quoi.
Il y a des dérapages, voilà. Ça peut être ouais, très fort émotionnellement, comme ça peut être du vrai drame, quoi. Donc je trouve ça rigolo, j'allais dire. C'est pas le mot, mais intéressant.
Oui. Mais allez-y, Emilie.
Ah non, j'allais dire qu'en vacances, c'est vrai que tu peux pas fuir, tu peux pas aller à l'école ni autre. T'es vraiment coincé un jeu de 4
oui, avec
la famille.
Donc c'est encore plus propice au dérapage, du coup. Dans votre BD, Emilie Glisson, chaque personnage a ses failles, ses obsessions, ses moments drôle. Comment vous avez fait dans l'écriture pour que chacun ait sa place dans cet énorme chaos ?
Ben oui, ça devait être très choral à la base. En fait, le père et la sœur se sont détachés assez vite, mais je voulais à chaque fois mettre un point. Alors, comment dire ? Comment résumer que ce soit... Comment dire ? La sœur, c'est vraiment le mal-être total, quoi. Elle a l'estime de soi au ras du sol. Le père, c'est un optimisme ravageur.
Qui a un rapport au guide Michelin complètement zinzin. Il est possédé...
Érotico-gay.
Il est possédé par... le guide Michelin et le bonhomme du guide Michelin, il a qu'une envie, c'est de faire visiter des musées à ses enfants et chaque journée doit être... Moi, je me suis reconnue chez cet homme.
C'est vrai.
Chaque journée doit être rentabilisée par une activité ou deux culturelles.
Exact. Bon, bah alors tu sais ce que j'ai vécu.
Je suis cette personne.
Je ne peux plus ouvrir un guide Michelin. Pour ma part.
Et les autres, du coup, je t'ai coupé.
Non, ben, ma mère, c'est celle qui, en fait, est là constamment lors de la vie active, mais en vacances va essayer d'arrêter toute charge mentale totale. Et comme un fantôme. Et le petit frère, c'est celui qui veut tout faire tout bien parce que après un frère autiste, on va dire, il y a un peu ce côté de il faut que je sois parfait, quoi. Et c'est vraiment ce que je voulais représenter.
Et la sœur, elle en a marre. Il y a vraiment un ras-le-bol sur le fait de devoir porter ce frère, passer après. C'était important pour vous d'insister aussi là-dessus sur la vie des proches.
Oui, j'ai insisté, même si ça a été tellement dur à écrire.
Oui, parce que c'est douloureux même à lire. Il y a un côté où son autre frère la traite d'égoïste parce qu'elle dit quand les parents vont mourir, je vais pas prendre la charge de ce frère-là, c'est pas mon boulot, quoi. Alors que l'autre lui dit que si, c'est leur boulot. Comment vous avez fait pour écrire ça, oui ?
Ah, j'ai pleuré. Non, ça a été vraiment de retrouver l'Emilie adolescente que j'avais enterrée très profond et surtout être honnête, parce que je pense que c'est ça qui fonctionne dans notre métier, c'est que si tu essayes de faire plaisir aux gens qui lisent, ça n'apporte rien. Alors que si je mets ce que j'ai vécu tel quel et que j'accepte que j'ai pu dire ou penser des choses horribles. Et donc c'est là je le fais à travers des pensées intrusives qu'a la personnage Eleana, c'est vraiment elle veut tuer son frère tous les jours, quoi. Oui. Et ça c'est un sentiment, quand j'en ai parlé encore une fois en dédicace à tous les frères et sœurs de personnes autistes, il y a quelque chose d'assez commun, mais qu'on refoule tellement on a honte de nos propres pensées, et donc je pense que c'est là qu'il faut mettre le doigt.
Et ça, vous avez eu d'autres retours sur ce texte-là et ces dessins-là de proches aussi de personnes autistes ?
Oui. Oui, ils sont toujours très bons et ça c'est incroyable, j'ai une communauté bienveillante on va dire et ça fait beaucoup de bien de voir que je ne suis pas seule d'une part et que ça parle à beaucoup de monde.
Comme la chanteuse Angèle, vous évoquez souvent dans ces deux livres-là, la loi de Murphy, hein, tout ce qui peut mal tourner, tournera mal et c'est un moteur comique du récit. Pourquoi vous avez choisi ce cadre humoristique ? Il y a cette notion de malédiction chez vos personnages ?
Il y avait quelque chose avec le mauvais œil, je pense. C'est la peur du regard de l'autre. Donc ça aussi, ça a été le fil rouge pour construire ma narration. Et la loi de Murphy, il y a toujours cette idée de d'essouffler le lecteur quoi, ou la lectrice, c'est de se dire, ah tiens, il pense qu'il va, ça va aller mieux, mais ça n'ira pas mieux. Ça va même être pire, tourne la page, tu vas voir. Et moi, ça m'amuse de jouer un peu comme un chat qui joue avec une souris. Non, c'est une horrible métaphore. Mais
Non, elle est très bien, elle est très jolie, très visuelle. Vous envoyez vos gugus au Yolcam, donc un Mexique réinventé. Vous pouvez nous décrire le Yolcam, parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'empire du wokisme.
Oh, waouh. Et en même temps, ça a été si dur,
mais
parce que le Mexique...
En même temps, c'est très chouette. Mais il y a un truc très caricatural dans ce pays qui est très, très drôle.
Alors, ça déborde de couleurs, en effet. J'ai inventé une religion, le couronisme, parce que je voulais parler de chrétienté, de judaïsme. Donc, je m'inspire des clowns, hein, tout bêtement. Enfin, oui. Chacun a son propre clown, je trouve ça génial. Et donc, tu peux soit ne plus l'avoir, soit vivre avec. C'est une idée, en fait, qui est venue.
Les femmes peuvent être en topless comme les hommes, et oui. Ça ne choque pas, mais du coup, ça excite un peu Ted.
J'ai un peu dessiné le monde dans lequel je voulais vivre, j'avoue.
Désolée pour l'empire du wokisme, c'était plus une blague.
Non, j'adore être woke, je suis très contente et fière.
Et pourquoi avoir choisi un lieu fictif alors ?
C'est un pays que j'avais inventé à 16 ans. Encore une fois, c'est un pays où je voulais vivre parce que je déteste le monde et où je pouvais faire ma loi. Et ça, je le dis à tous les gens qui m'écoutent, c'est inventer votre pays et vous connaîtrez vous-même, à savoir quel est le PIB, quelle est la gastronomie, quelle est la musique. Enfin, et donc c'est assez rigolo de faire ce travail. Et Yolcam était apparu comme ça et je voulais en faire quelque chose. Ouais.
Merci beaucoup. Alors les vacances, c'est bien, mais avec le bon livre, la bonne série, le bon podcast, c'est encore mieux. On met quoi dans la valise ? C'est le kit de survie culturelle. Émilie Gleeson, la BD à lire à tout prix cet été.
Alors mon dernier coup de cœur, c'est Cloqui de Mathias Martinez à Misma. C'est impressionnant, c'est un bonbon doux amer sur le capitalisme de Disney à travers un parc d'attractions dessiné à la Betty Boop. Et franchement, c'est un délire incroyable.
Fab Caro, l'album de Gottlieb à lire pour ceux qui ne le connaissent pas.
Alors je dirais Ralovely, mais c'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains.
C'est-à-dire ?
Tant pis, je dis... C'est un petit peu trash par moment.
D'accord.
Et alors, je ne l'ai pas relu, c'est peut-être même plus que trash.
Ouais.
On ne va pas dire ça. On va dire un truc plus...
On annule.
On va dire les dingos aussi, on va dire ça.
Avec
des
signes, c'est ça ?
Je me protège un petit peu.
Émilie Gleeson, l'illustratrice à suivre à tout prix.
Oh, j'ai une passion pour Lisa Cheteau.
Okay.
Elle avait fait mes 14 ans à Gallimard Jeunesse.
Oui.
Et j'ai adoré comment elle a illustré ça. C'est un teen movie en case.
Ouais, c'est génial. C'est le podcast est super aussi. Fab Caro, la meilleure chanson de Lidl des années 80, Elsa. Parce que vous parlez d'Elsa.
Oh là là, elle a fait que des trucs chouettes. Un roman d'amitié, Jour de neige, quelque chose dans mon cœur. Elle est super triste.
C'est
pas très festif pour l'été. Mais bon, voilà.
Les différentes recommandations du kit sont à retrouver sur le site et l'appli Radio France, évidemment. Merci à tous les deux. Fab Caro, votre roman Les derniers jours de l'apesanteur sort aujourd'hui chez Gallimard. Émilie Gleeson, votre bande dessinée Les Gugus en vacances est sortie en avril chez Atrabile. Foncez en librairie les amis, joyeux et joli mois d'août à tous les deux. C'était le Mac de l'été avec Louise Tempero, Tarana Touré et Ibrahim Damani à la préparation de cette émission. Étienne Bertin et Étienne Kenel à la réalisation, c'est leur dernière, on les embrasse. Assisté d'Amazir Amadein Guest et à la technique, Mathias Aléon. Après le journal de 19h, vous retrouvez votre rendez-vous avec le téléphone sonne. Ce soir, Élodie Forêt, sortez grilles et stylos. Les mots croisés sont de retour.
Et oui, vous pensiez que les mots croisés étaient ringards? Eh bien, pas du tout. Toute génération confondue, on trouve des passionnés. Cet été, petite révolution aussi dans la conception avec des femmes qui veulent moderniser les grilles. On verra comment des verbicrucistes se battent aussi pour défendre la fabrication artisanale. Alors racontez-nous à quand remonte votre amour des mots croisés et fléchez les bienfaits dans votre quotidien, vos astuces aussi pour remplir vos grilles. Téléphone ou message WhatsApp 01 45 24 7000.
Merci Elodie, à tout à l'heure.